Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 5e saison de Dans ma vie d'infirmière. Depuis plusieurs saisons, ce podcast donne la parole à celles et ceux qui font vivre le monde de la santé, soignants de tout horizon et patients au parcours inspirant. Ensemble, on explore les réalités, les émotions, les défis et les belles surprises de ce métier qui ne laisse jamais indifférent. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter, à partager, à faire vivre le projet. Alors, installez-vous confortablement, car un nouvel épisode vous attend. Bonne écoute! Estelle est infirmière ressource douleur dans un hôpital psychiatrique. Forte de son expérience de terrain, elle travaille au quotidien pour améliorer la prise en charge de la douleur auprès des professionnels et des patients. Elle intervient pour sensibiliser les soignants, les accompagner, les former à l'évaluation et à la gestion de cette douleur dans des contextes parfois très complexes comme le milieu de la psychiatrie. En parallèle, elle mène des travaux de recherche clinique avec cette soif de comprendre et d'apprendre. Son approche est à la fois rigoureuse, humaine et engagée. Une infirmière passionnée qui œuvre pour que la douleur ne soit jamais banalisée et pour redonner une vraie place à la parole des patients. Bonne écoute. Bonjour Estelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Pour commencer l'interview, la question classique, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Bonjour et merci Aurélie pour cette invitation. Je m'appelle Estelle, j'ai 47 ans, je suis infirmière au centre hospitalier Alpes-Isère, c'est le deuxième établissement public de santé mentale de la région.
Est-ce que tu peux nous retracer du coup ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a amené à faire le métier d'infirmière ?
Alors écoute, pendant mon adolescence, j'étais pilote du LM et secouriste à la Croix-Rouge, donc j'ai longtemps hésité entre les deux. Après le bac, donc j'avais le choix entre des études en météo, aviation civile ou les soins. Les profs m'ont conseillé de faire médecine et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais surtout attirée par l'accompagnement. Donc j'ai suivi mes 3 années à l'école d'infirmière. J'ai eu la chance pendant ces études de partir 3 mois à Sénégal, ce qui a été très enrichissant. J'ai pu faire de la santé publique, mais aussi de la psychiatrie au Sénégal. J'ai fait un stage à Médecins du Monde et j'ai réalisé mon mémoire avec eux sur le difficile retour en France des humanitaires qui partaient en mission. Donc du coup, j'ai fait quelque chose de complètement différent. Je suis partie vers la chirurgie. J'ai passé 22 ans en chirurgie dans plusieurs spécialités, en viscérale, en orthopédie. En 2017, j'ai demandé une spécialisation dans la douleur, DU, parce que forcément, chirurgie, la douleur, c'était mon quotidien. J'ai ensuite été infirmière coordinatrice. Le CLUD, c'est le comité de lutte contre la douleur qu'on trouve aujourd'hui dans tous les établissements de soins. Ça, c'était un poste que j'avais à mi-temps. Et mon autre mi-temps, c'était un poste dans une unité d'accueil en chirurgie. Donc là, j'ai découvert vraiment une autre posture du métier, c'est-à-dire mener des entretiens, faire du dépistage, de l'évaluation. Et j'ai bien senti là qu'il y avait plein de choses à faire en préopératoire pour améliorer la récupération après la chirurgie. Accessoirement, j'ai aussi 2 enfants à cette période-là et je me suis bien rendu compte que préparer les jeunes enfants, mais aussi les patients porteurs de handicap, hein, ça permettait de mieux moduler la douleur. Donc pendant ces entretiens préopératoires, donc l'objectif qui était de mieux préparer les patients, on mettait notamment l'accent sur le dépistage des facteurs de risque. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée en tabacologie, hein, puisque c'est le plus grand risque évitable en chirurgie. Et pour ce diplôme universitaire, j'ai fait mon mémoire sur le tabagisme des douloureux chroniques. J'ai réuni comme ça mes 2 spécialisations. Et puis j'ai commencé à préparer quelque chose qui m'intéresse beaucoup maintenant, des petites études. Donc une étude notamment sur l'offre systématique de substitution nicotinique chez les fumeurs. Et puis, il y a 5 ans, j'ai rejoint une équipe de liaison et de soins en addicto sur Lyon. Donc tout en gardant un poste d'infirmière coordinatrice de CLUD à Grenoble. Mais là-bas, j'ai découvert le mésusage du protoxyde d'azote. Alors c'est un gaz que je connais très bien puisque c'est la référence pour la douleur induite. Et là-bas, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui consommaient du protoxyde d'azote de manière non médicale, on va dire, et parce que l'établissement était très proche des réseaux de vente. Et j'ai donc fait mon 3e mémoire sur ce thème, en tentant d'ailleurs d'alerter les addictologues sur ce nouveau produit et le trouble de l'usage qu'on commençait à voir arriver. Et pour finir, et ben depuis 3 ans, je suis au centre hospitalier Alpes-Isère. J'ai la chance ici d'avoir mes 3 domaines sollicités, hein, douleur, tabaco, addicto. et je travaille dans la sensibilisation, la formation des étudiants, des professionnels, mais aussi une prise en charge directe des patients qu'on va dire un peu complexes, hein, qui auraient besoin d'autres techniques que celles qui sont disponibles en première ligne pour être soulagés. Et depuis plusieurs années, en parallèle, j'ai continué à collaborer avec un bureau de recherche qui me soutient pour la mise en œuvre de protocoles de recherche, voilà, jusqu'à la publication et les communications après en congrès, dans les revues, etc.
Donc comme tu l'as dit, tu es actuellement infirmière référente douleur. En quoi ça consiste? C'est quoi tes missions? Comment ça se passe tes journées par rapport à ça?
Alors, je suis plus exactement infirmière ressource douleur. Les référents, ce sont les soignants qui sont en première ligne dans les équipes. Et moi, infirmière ressource douleur, je suis en deuxième ligne. Alors, on n'a pas vraiment de référentiel pour ces postes. Juste pour t'expliquer concrètement, je suis à la fois impliquée dans l'équipe opérationnelle du CLUD. Hein, je suis la vice-présidente du CLUD. C'est-à-dire que je suis du côté des formations, des sensibilisations, mais aussi des audits, pour savoir si la qualité des prises en charge de la douleur sont efficientes. Mais je suis aussi impliquée dans des consultations douleur. Je travaille avec un médecin somaticien qui est spécialisé aussi avec un DU douleur. Et ça, ça ressemble un peu au poste qu'on peut trouver dans les centres d'études et de traitement de la douleur, hein, ce qu'on appelle les CETD en France. Donc du coup, infirmière ressource douleur, c'est surtout une ressource pour les équipes, hein, les équipes qui sont en difficulté face à des patients douloureux, qu'on a du mal à soulager, voilà, je suis là pour ces patients-là. Alors ça concerne surtout des patients douloureux chroniques, hein, des patients qui ont mal depuis longtemps, qui sont en errance. Bien souvent, ce sont des douleurs qui ont des composantes neuropathiques ou nociplastiques. C'est des concepts qui sont assez récents. Les prises en charge peuvent paraître difficiles, et particulièrement chez les patients qui ont des pathologies psychiatriques. Hein, l'évaluation n'est pas aisée. Alors, la prise en charge médicamenteuse, elle est à adapter, hein, selon le type de douleur. C'est important de donner le bon antalgique pour la bonne douleur. Et puis, il y a des prises en charge non médicamenteuses, hein, qui complètent ces prises en soins. Nous, à l'hôpital, on utilise le TENS, c'est un système de neurostimulation. Avec un petit courant électrique, on va soulager les patients. Et puis, on aime bien aussi utiliser la musicothérapie, qui a fait ses preuves et qui est intéressante chez nos patients, ceux notamment qui n'aiment pas bien les interactions avec les soignants. On met aussi beaucoup l'accent sur le risque du mésusage d'antalgiques en psychiatrie, la prise en charge des douleurs en période de sevrage, hein, un service de sevrage particulièrement pour les sevrages alcool. Et puis on a également un pôle TSA avec des soignants très attentifs aux douleurs aiguës, aux douleurs chroniques, aux douleurs induites par les soins, ou au contraire les douleurs induites par le défaut de soins. Quand on a un TSA, on va pas facilement consulter. Donc avec toutes les particularités de sensorialité du TSA, voilà, c'est aussi une grosse partie de notre travail.
Et pour quelle raison tu as décidé de te spécialiser là-dedans? Qu'est-ce que ça implique quand on travaille à l'hôpital psychiatrique? Tu as commencé déjà un petit peu à répondre à la question.
Bah écoute, la douleur, c'est à la fois une expérience très répandue, hein, elle est connue par tous à un moment de sa vie, de manière universelle. Elle est d'abord un signal d'alarme, c'est un système utile pour préserver son intégrité. Mais quand elle dure, là on parle de douleur chronique. Et là, on est plus dans quelque chose de pathologique, il y a des conséquences considérables, hein, sur le fonctionnement, sur le quotidien du patient, et c'est une véritable source de handicap. Alors, en psychiatrie, nos patients qui ont déjà un handicap psychique, et ben voilà, ça en rajoute. Et prendre en charge de manière optimale leur douleur, et ben finalement, c'est les soutenir. Et puis, lorsqu'on souffre, et bien on recherche n'importe quel moyen pour se soulager, donc on a souvent quand même des problématiques de mésusage de médicaments, ou d'usage de ce qu'on appelle les substances psychoactives, hein, les drogues, et des problèmes d'addiction chez nos patients douloureux.
Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment tu prends en charge la douleur chez les patients en psychiatrie? Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport aux autres services?
Oui, bah écoute, j'insiste beaucoup sur les différents mécanismes de la douleur, hein, qui restent quand même les mêmes, hein, chez nos patients. C'est juste que la comorbidité psychiatrique va compliquer les choses, hein, ça va compliquer l'évaluation, ça va compliquer la prise en charge, mais bon, les douleurs à la base sont quand même bien les mêmes, hein, et les recommandations, elles s'appliquent de la même manière chez eux. Donc je dirais que le dépistage des douleurs, c'est un défi en psychiatrie. Il existe un phénomène, hein, qu'on appelle l'ombrage diagnostique, c'est-à-dire attribuer la douleur à la pathologie psychiatrique, et ça c'est toujours embêtant, c'est malgré nous. C'est ce qu'on appelle un biais, mais en tout cas, c'est un sous-dépistage, à la fois chez les patients, mais aussi chez les patients qui l'assimilent. C'est-à-dire que j'ai été confrontée à des patients qui me disaient « bah moi j'ai mal, mais bon, c'est dans ma tête ». Ou alors « bah j'ai mal, mais j'ai mal tout le temps, donc du coup, pas de recours aux consultations. Hein. Pour lui, c'est sa normalité ». Il y a l'évaluation aussi qui est un véritable défi en psychiatrie. Hein. La perception de leur corps, elle peut être particulière. Ils ont une compréhension aussi un peu singulière de ce qu'ils ressentent. On a parfois des propos délirants aussi, mais bon, il faut savoir interpréter un petit peu dans leurs mots voilà, ce qui peut se passer. Et puis en psychiatrie, bah, la communication, l'alliance, c'est des points qui sont très importants. Il faut vraiment une bonne relation patient-soignant pour qu'ils puissent s'exprimer. Il faut bien avoir en tête que les patients douloureux qui vont le plus mal ne sont pas forcément ceux qui se plaignent ou ceux qui crient le plus fort. Puis pour finir, la prise en charge, elle doit se faire en fonction aussi de ce qui leur est accessible. Il faut faire avec leur handicap psychique également.
Quel état des lieux tu fais sur les connaissances des professionnels en matière de douleur ?
Bah malheureusement, 2025, je dirais quand même encore insuffisante, hein, ou du moins à mettre à jour. La douleur, c'est à la fois une expérience très répandue, mais finalement mal connue et parfois mal reconnue aussi. On parle aujourd'hui de handicap invisible chez nos patients qui ont des douleurs chroniques. Alors, je participe à la formation initiale, hein, mais aussi à la formation continue, et je vois bien l'importance de dédramatiser chez les soignants les symptômes douloureux. C'est-à-dire qu'il faut être très à l'aise avec la douleur de nos patients. Hein, c'est un peu comme en addicto, il n'y a pas que le sevrage. On peut aussi accompagner les patients qui ont une problématique d'addiction sur d'autres objectifs, la réduction de consommation, la consommation contrôlée, la consommation à moindre risque. Dans la douleur chronique, il ne faut pas baisser les bras. L'objectif raisonnable, c'est pas de revenir à une échelle numérique de la douleur à zéro. Hein, c'est une prise en charge qui est bien plus globale. Il faut savoir se satisfaire de juste améliorer la qualité de vie du patient, par exemple. Hein, le chiffre de la douleur peut rester le même. Mais si on lui permet d'avoir un peu plus d'activité, un peu plus de loisirs, un meilleur appétit, un meilleur sommeil, et ben voilà, on a fait le job. Hein. Et je dirais même que c'est le premier travail à faire d'ailleurs avec les patients, c'est avoir ensemble le bon objectif.
Si tu pouvais améliorer un seul aspect de la prise en charge de la douleur en psychiatrie, ça serait lequel ?
Alors écoute, il y a un concept de Bandura, je ne sais pas si tu connais, un psychologue, qui nous parle de sentiment d'efficacité personnelle. Et je crois que c'est très important de se préoccuper de ce sentiment d'efficacité personnelle des soignants pour que les patients aillent mieux, c'est-à-dire leur confiance en eux dans leur capacité à soulager les patients ou en tout cas améliorer leur qualité de vie. L'année dernière, il y a un article paru dans JAMA que j'ai bien apprécié qui comparait les douloureux chroniques qui allaient bien avec ceux qui allaient moins bien. Et donc, ils s'intéressaient à l'anxiété, la dépression, la fatigue, le niveau de douleur, la qualité de sommeil, etc. Et c'était bien l'attitude de leurs soignants qui faisait la différence, et notamment leur degré d'empathie. C'est voilà, leur capacité à rester face à cette douleur, à les écouter, à les laisser parler, à laisser les patients raconter toute leur histoire, à se montrer attentif, être positif, à proposer tranquillement un plan d'action pour le patient. Voilà, je pense qu'il faut dédramatiser les choses.
En plus de ton poste d'infirmière, tu fais aussi de la recherche, tu en as déjà parlé un petit peu avant. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi portent tes travaux ?
Alors, j'ai plusieurs thèmes de prédilection, hein, mais tous viennent de mes activités quotidiennes. Alors, dans ma carrière, je t'en ai pas parlé au début, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de parents qui devaient faire face à un deuil périnatal, hein, donc perdre un bébé pendant la grossesse ou dans les heures qui suivent l'accouchement. Et c'est un sujet que j'ai pas mal travaillé en recherche. J'ai rencontré une association de photographes. Je participe aujourd'hui, hein, je réalise des photographies dans ce cadre du deuil périnatal, et forcément de ces expériences-là, je me suis posé la question finalement au bout de quelques années, mais finalement, ces photos, ben, quels sont leur impact sur la santé mentale des parents ? Et donc on a fait une grande étude comme ça, alors je dis grande étude parce qu'on s'attendait à avoir une centaine de parents, et finalement on a 1300 parents qui ont bien voulu répondre à notre étude. Donc aujourd'hui, les résultats sont exploités et c'est en cours de publication. Sinon, bah, comme tu l'as compris, j'aime bien explorer les liens entre tabagisme et douleur. Hein, donc j'avais fait une étude sur le tabagisme des douloureux chroniques. Il y a la substitution nicotinique systématique aussi, que je pense importante hein, tout au long de la vie du fumeur, hein, quelle que soit son intention, et notamment en chirurgie. On avait fait une petite étude sur l'intérêt en périopératoire de substituer les fumeurs, avec notamment des résultats positifs pour contrôler la douleur chez les douloureux chroniques. C'est important et ça fait partie de la prise en charge globale. Il y a ce mésusage du protoxyde d'azote aussi, donc il y a un article qui est paru l'année dernière, où j'avais retracé un peu la longue histoire de ces 200 ans de protoxyde d'azote. Ça fait 200 ans qu'on l'a découvert, ce gaz. Donc j'avais tenté de faire une petite synthèse dans un article. Et puis il existe aujourd'hui, hein, on a de plus en plus de preuves qu'il existe le trouble de l'usage de protoxyde d'azote. Donc un gaz qui est, moi je trouve passionnant parce qu'il ouvre à la fois des perspectives thérapeutiques. On a aujourd'hui des collègues en psychiatrie, et notamment les Suisses, qui l'utilisent dans la dépression résistante. Mais on a aussi des effets qui sont particulièrement rapidement et terriblement délétères quand c'est consommé hors prescription. Donc voilà, un produit tout à fait particulier en addicto, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour sensibiliser les professionnels de ce côté-là. On a également en cours, avec ma collègue infirmière tabacologue, une étude sur le tabagisme des soignants en psychiatrie. Et puis, je suis en plein dans la préparation de protocoles de recherche autour de la douleur chronique et des addictions chez les sujets autistes sans déficience intellectuelle. On voit qu'il y a dans la littérature un manque de données, donc on va essayer de participer à combler un petit peu ce manque. Et puis même avec un projet d'essai randomisé, mais là c'est encore un petit peu secret, c'est pour l'année prochaine. Mais ce sera mon premier essai randomisé, donc voilà, très enthousiaste.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la recherche, et est-ce que c'était une suite logique dans ton parcours ou une opportunité que t'as saisie?
Alors je crois que c'est un peu un trait de caractère, hein, ne pas cautionner automatiquement tout ce qu'on voit faire ou tout ce qu'on nous dit de faire. Finalement je crois que ça a commencé pendant mes études, ce besoin d'être pertinent dans nos soins, par manque de temps aussi ce besoin d'être efficace. Donc voilà, j'ai toujours eu tendance à chercher des réponses à mes questions et à travailler sur la base de données probantes. Voilà, c'est une habitude.
Et comment tu fais le pont entre ton travail sur le terrain et la recherche? Est-ce que l'un nourrit l'autre?
Des liens entre la pratique quotidienne et les projets de recherche, oui, complètement. Hein. La recherche, c'est pas du tout une fin en soi. Je crois que c'est très égoïstement. Je cherche d'abord à répondre à mes propres questions, mes propres interrogations. Et puis ensuite, si mes résultats intéressent mes pairs, je partage avec plaisir.
Durant ma formation d'infirmière en pratique avancée, on a tout un pôle de recherche qui est à développer. Tu sens que la place des infirmières dans la recherche, elle évolue. Est-ce qu'on nous laisse plus de place aujourd'hui qu'avant?
Alors oui, moi j'ai fait mes études il y a 25 ans. À cette époque, j'ai jamais entendu parler d'infirmières chercheuses. Je me souviens que de poste, on nous parlait d'infirmières de recherche clinique. Mais c'est-à-dire des infirmières qui appliquent les protocoles d'autres personnes, hein, qui sont plus souvent médicaux. Et moi, c'est vrai que c'est pas vraiment un côté qui m'a beaucoup emballée. Moi, le plaisir, je l'ai surtout avant et après la recherche, finalement. Avant, quand tu te poses des questions, quand tu cherches des réponses dans la littérature, et puis voilà, si t'en trouves pas, si c'est pas suffisant, t'as tout ce travail de construire une méthodologie adaptée pour faire avancer les connaissances. Et puis il y a tout plaisir après, hein, le plaisir de communiquer, partager nos données, c'est bien le but final. Voilà, moi j'aime bien cette idée de participer à l'évolution des pratiques et je suis ravie de voir que ça évolue dans ce sens-là.
Eh bien merci beaucoup Estelle pour ton témoignage.
Eh bien merci à toi et merci de rendre notre travail plus visible.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée !